Eh bien, pour continuer, vous venez de poser la question de quelle est la relation entre votre travail de cette année et l'année dernière. Alors, première question de la journée, première question impertinente de la journée, c'est quand vous avez vu la question sur l'écran, quelle est la relation entre votre travail de cette année et de l'année dernière? Il y en a combien d'entre vous qui ont dit relation? Qu'est-ce que tu entends par relation? Qui a dit ça? Alors, bon, deux, trois personnes. Alors, qui a traduit la question? C'est-à-dire, quelle est la différence entre cette année et l'année dernière? Ok, bon. Alors, ça, je connais des choses sur vous maintenant. Je connais des choses.
Moi, j'ai remplacé relation par lien.
Et il y en a d'autres qui l'ont remplacé avec quel est le lien? Et là, justement, c'est pas la question qui est posée, c'est la question qui a été comprise, qui nous indique quel est le schéma de la personne. Et qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On cherche à savoir, on cherche à savoir comment est-ce que la personne, quels sont les facteurs de décision. Ça veut dire quel est le taux de changement dont une personne a besoin dans un contexte donné pour être motivé, parce qu'on est toujours sur les traits de motivation, hein, sur les choses qui motivent. Donc, quel est le taux de changement qu'elle a besoin dans un contexte pour être motivée et quel type de changement faut-il avoir pour être motivé? D'abord, j'aimerais expliquer des schémas et après, je vais vous montrer comment décodifier ce que vous avez écrit, parce qu'il y a des subtilités là-dedans. OK? Est-ce qu'on veut savoir, est-ce que la personne, dans un contexte donné, cherche ce qui est nouveau ou différent, ou est-ce qu'elle cherche ce qui est pareil? Et en quoi c'est les deux? Oui. Et je vais vous montrer comment décodifier ça après. Et donc, c'est sur la page 17 dans votre dossier. Roger Bailey a appelé ça les facteurs de décision. Et là, le premier schéma s'appelle pareil. Et j'ai marqué la distribution aussi, c'est 5% dans les entreprises en moyenne. Ça veut dire que dans une entreprise donnée, dans le contexte du travail, il y a normalement à peu près 5% qui ont un schéma de pareil. Et le schéma de pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne sera motivée quand elle croit que les choses sont pareilles, qui n'ont pas changé. Prenez par exemple un métier qui a tendance à être pareil, c'est le métier de maître ou de maîtresse ou de professeur à l'école. Les mathématiques, ça ne change pas. Tu peux enseigner les mêmes choses pendant 25 ans, il n'y a pas de changement. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec des conseils scolaires aussi et je me suis rendu compte que c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens ont tendance à avoir un schéma pareil. C'est pas les 5%, c'est bien au-delà. Et mettons, dans une entreprise donnée, s'il y a plus de 5% des gens qui travaillent à la même manière, avec la même technologie, sans changer depuis 10, 15, 20 ans, il y a plus de 5% qui ont ce schéma de pareil. Les gens ayant le schéma de pareil sont motivés lorsque les choses sont pareilles. Mais alors, s'il n'y a pas que le contexte du travail dans la vie, il y a d'autres contextes. Prenons par exemple le contexte de la crème glacée. Vous savez qu'il y a à peu près 40 saveurs de crème glacée, n'est-ce pas? Et quand je vais pour choisir une crème glacée, je regarde toutes ces options-là. Je m'imagine qu'est-ce que ça va donner, toutes ces options-là. Et à chaque fois que j'y vais, je prends le chocolat. Parce que j'aime le chocolat. Ça, c'est un schéma de pareil. Vous connaissez des gens, c'est peut-être vous, qui ont des restaurants préférés. Et à chaque fois qu'ils vont, ils prennent le même repas. Il y a des familles qui ont des schémas de pareil lors des vacances. Ils ont des chalets, des maisons de vacances. Ils vont tout le temps au même endroit. C'est un schéma de pareil dans le contexte des vacances. Donc, c'est ni bon ni mauvais, c'est ce que c'est. C'est tout. D'accord? Question sur ça? Non? Je dis dans les... Ça, c'est dans le contexte du travail. On va voir dans d'autres contextes, il y a d'autres chiffres. Tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est dans le contexte du travail. Pour d'autres contextes, par exemple les consommations, les achats, la carrière, il faut faire des recherches. Ce n'est pas les mêmes données. Donc, facteur de décision, le deuxième schéma s'appelle pareil avec exception. Et quand on va faire le comment décodifier, vous allez savoir pourquoi ça s'appelle pareil avec exception. Mais si vous regardez ma main, c'est un peu comme un changement évolutif. Donc pareil, si on est sur le même niveau tout le temps, pareil avec exception, c'est l'évolution. C'est une personne qui a besoin que ça évolue progressivement, et ce n'est que tous les 5 à 7 ans que la personne va provoquer un changement d'un style abrupt. Entre-temps, la personne est motivée quand ça évolue graduellement, progressivement. D'accord? Et vous voyez les chiffres. Ici, c'est 65% de la population. Ça, c'est la raison pour laquelle la planète a survécu jusqu'à maintenant. Parce qu'il s'agit de l'évolution et non pas de la révolution. Si on avait 65% de la population qui voulait rejeter ce qu'on a fait avant pour recommencer à nouveau, je ne pense pas qu'on aurait survécu l'expérience. Mais 65% de la planète, dans beaucoup de contextes différents, a besoin d'évolution plutôt que de révolution. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle le schéma de différence. Vous voyez, c'est 20% au travail. Ce sont les gens qui ne sont pas motivés par l'évolution, sont pas motivés quand c'est pareil, sont motivés quand c'est différent, nouveau, quand c'est un switch, comme on dit en anglais. Et c'est un changement abrupt. Ces gens-là peuvent faire le même travail pendant un an ou deux au maximum. Puis après, ils ont des pieds qui grattent. Alors, j'ai un problème dans ma vie, c'est que c'est mon schéma quant à ma maison. Alors, quel est le problème avec ça? C'est que quand je suis revenue au Canada, j'avais loué un appartement. Oh, c'est très bien. J'étais dans une maison. Et pour la première année, j'étais dans l'appartement d'en bas de la maison. Mais après un an, 18 mois, j'avais les pieds qui grattent. Et donc, mais j'avais pas voulu changer d'adresse. Parce que je faisais des économies et je voulais acheter une maison. Et pour acheter une maison, on a besoin de quoi? D'une banque. Et les banques, est-ce qu'ils aiment les personnes qui déménagent souvent? Mm-hmm. Non! Donc, il fallait absolument que je reste dans la même adresse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déménagé à l'appartement en haut de la maison, gardant la même adresse. De l'acheter là, au moins 2 ans. Alors, j'ai tenu plus de 2 ans et demi. J'ai repas, j'ai changé des meubles de place. Parce qu'il fallait que ça soit nouveau. Et d'ailleurs, quand tu élèves des enfants, c'est pas nécessairement la meilleure chose de changer l'environnement tous les 2 minutes. Bon, alors, j'en suis arrivée, j'ai resté là 3 ans. J'en crevais, mais bon, j'ai resté là 3 ans. Et là, j'ai fait ma demande pour mon hypothèque. Quelles sont les 2 premières questions que posent les banques? Combien de temps as-tu travaillé où tu travailles? Et combien de temps as-tu vécu où tu vis actuellement? Parce que les banques ont tendance à avoir un schéma pareil, yes, avec un peu d'exception, mais très peu. OK? Ils sont obligés maintenant de faire des changements, même si ce n'est pas parce qu'ils veulent. D'accord? Ils sont obligés. Eh bien, donc ça, c'était mon problème quant à... Et là, j'ai fini par acheter une maison et j'y suis resté 7 ans. Mais j'ai fait des rénovations à peu près tous les 18 mois. Oui. Si tu connais ton schéma, au moins tu sais quoi faire. Hein? Bien. Alors, les facteurs de décision de différence, besoin de changement abrupt tous les ans ou tous les 2 ans. C'est 20% en entreprise dans le contexte du travail. Ce sont les gens qui sont les champions du changement. C'est eux qui sont en train de promouvoir la différence, qu'on fait des choses différemment. Alors, ils vont utiliser un langage de différence et que ça acharne presque tout le monde. Et ensuite, ils tirent la conclusion que les gens n'aiment pas le changement. Mais en fait, c'est eux qui sont étranges par rapport à le reste de la population, quand même.
Il vaut mieux se taire, d'accord.
Non, il ne vaut pas mieux se taire, à mon avis. Ce n'est pas une stratégie de réussite, à mon avis. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? On va voir. Et c'est les gens qui adorent le changement majeur et dramatique.
Dramatique.
Il faut avoir un peu de drame dans sa vie, n'est-ce pas? Sinon, c'est plate.
Et oui.
Opinion. Alerte, c'est mon opinion. Vous n'avez pas acheté. Bon, le quatrième schéma, c'est facteur de décision. C'est pareil avec exception. Et différence. Et là, vous voyez, c'est 10% de la population. Ce sont les gens qui ont besoin de 2 choses pour être motivés par rapport au changement. L'évolution et la révolution. Ils ont besoin des 2. Et quand on va dépouiller les réponses, on va compter le nombre de chacun pour savoir quelle est la durée du temps dans laquelle la personne peut faire la même chose. Parce que en moyenne, c'est 3 ans. Mais si tu as plus de différence et moins de pareil avec exception, ce serait moins long. Si tu as plus de pareil avec exception et moins de différence, ce serait plus long. Mais en moyenne, ça pourrait être entre les 2, 3, 4 ans. Avez-vous envie de savoir quel est votre schéma? Parce qu'une méthode scientifique, rigoureuse et empirique de le découvrir. Oui, Fabien. Tu dis oui, tu es en train de... Tu achètes, c'est ça? Ok. Passez à la page suivante et on va voir. Alors, la question était, quelle est la relation entre eux? Alors, vous allez marquer un point de différence. D'abord, si la personne semble pas avoir compris la question. Donc, un point de différence, d'accord? Si la personne a retraduit la question en... Tu veux dire, quelle est la différence entre... Il y a une question? Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose là?
Non.
Comment on fait pour dépouiller? C'est que vous prenez d'abord la question à l'origine, c'est quelle est la relation entre ton année, cette année et l'année dernière? Si votre partenaire n'a pas semblé comprendre la question d'emblée, vous marquez un point de différence. Ok, c'est bien clair?
Si la personne n'a pas compris la question.
Si la personne n'a pas compris la question. Alors, il va falloir que je trouve une autre manière de dire ça. Je suis un peu coincée là parce que je ne comprends pas ce qu'on ne comprend pas. Alors, bon. Alors, si la personne ne comprend pas quand tu lui as posé la question, quelle est la relation entre cette année et l'année dernière, tu lui marques un point de différence. Bon. C'est parce que ça me frustre. Si. Ok, et je continue. Après ça, si la personne a traduit la question en « quelle est la différence ?», tu lui donnes un autre point différent. Parce que tu sais, dans les cours de PNL et des cours de communication, on a tendance à avoir beaucoup de gens qui aient des schémas de différence. Alors, j'ai même eu des gens qui disputent avec moi, qui disent « mais ça n'a aucun sens ta question, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la relation ?» Alors j'ai dit « d'accord, je continue, je passe à autre chose. » Parce que j'ai compris, voyez. Parce que ça n'a pas de sens si tu... a besoin de, si tu fais la différence plutôt que la similitude. Parce que le mot relation dans cette phrase-là, elle implique la similitude. C'est pour ça que si toi tu cherches les différences, tu comprends pas la question. C'est pour ça. Et donc, si la personne, à chaque fois la personne, elle dit quelque chose comme ceci, ben, c'est exactement pareil, c'est identique, et qu'elle a l'air content, ça c'est un schéma de pareil. Si par contre la personne dit, mettons, tu me poses la question, tu dis, Charles, quelle est la relation entre ton travail de cette année et de l'année dernière? Et moi je dis, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que j'ai un schéma de pareil. Ça veut dire que ma cloche pour le changement a sonné et que je n'ai pas réussi à créer un changement. Donc on ne sait pas quel est le schéma. On sait que la personne a besoin d'un changement, mais elle n'a pas réussi à la faire passer. Donc, si la personne est contente que ça soit identique, c'est un schéma de pareil. Et identique, exactement le même. Si la personne dit, c'est le même, mais, c'est le même, sauf pour, c'est le même, excepté, ça c'est pareil avec exception. Et la personne va faire la chose suivante. C'est pareil, sauf pour, et là, elle va utiliser ce qu'on appelle une comparaison. Plus, moins, mieux, pire, etc. Tous les mots qu'on peut mettre sur une échelle glissante. Vous voyez? Ça, c'est les mots de pareil avec exception. Et vous comptez un point par mot de comparaison. Donc, un point pareil avec exception lorsqu'elle a dit c'est le même mais. Et après, pour chaque mot, parce qu'on aura des gens avec des schémas doubles. Donc, c'est important de compter chaque mot. Vous me suivez là?
Non.
Alors, posez-moi une question pour que je puisse savoir comment vous aider.
Comment comptez-vous? Bon, elle dit c'est le même sauf pour. Alors, comment faites-vous?
C'est le même sauf pour, tu donnes un point, pareil avec exception.
D'accord.
Okay. Après ça, pour chaque mot qui est un comparaison, plus, moins, mieux, pire, amélioré, etc., tu donnes un autre point à chaque fois qu'il y a un mot comme ça. Et le contenu, tu t'en fiches. On n'est pas là pour examiner le contenu. Juste les mots qui collent à des schémas. Et pour la différence, là vous marquez, si elle n'a pas compris la question.
Un point exception. Je rajoute un point exception.
Tu comptes à chaque exemple, d'accord?
Ah, ok, d'accord.
Tu comptes chaque exemple. Alors ensuite, pour les schémas à différence, si la personne n'a pas compris la question, c'est un point. Si elle a changé en quelle est la différence, c'est un autre point. Et à chaque fois qu'elle utilise les mots de différence, c'est nouveau, c'est changé, c'est transformé, c'est complètement différent, c'est unique. Tous ces mots-là sont les mots de différence et tu les comptes. Le changement est un mot de différence. Oui, Laurent?
Moi, elle a commencé donc par un pareil avec exception.
C'est qui le partenaire? C'est OK, Corinne, qu'on en parle? OK, vas-y.
Mais par contre, elle a dit, mais alors, c'est le même, mais je regarde d'une manière différente.
Alors, c'est parfait, c'est un exemple du schéma double. C'est le même, mais c'est quel schéma?
Pareil avec exception.
Pareil avec exception. Et qu'est-ce qu'elle a dit après, par la suite?
Mais je le regarde d'une manière différente.
Mais je le regarde d'une manière différente. Donc un point chacun. Voilà, c'est tout. Donc c'est le schéma double à égalité.
Et quand on fait l'inverse, hein,
parce que c'est la même chose. C'est différent, mais c'est pareil avec exception. Voilà. C'est ça. L'ordre n'importe pas. Tu comptes les points, c'est tout. Donc je vous demande de dépouiller avec votre partenaire et après je vais répondre à des questions.
Pareil
avec exception et différence, ça veut dire qu'en moyenne, tu vas réclamer le changement à peu près tous les 3 ans. Mais ça dépend si tu comptes le nombre de schémas de différence ou le nombre de schémas de pareil avec exception, tu verras, ça varie. Mais parfois, la personne ne répond pas à la question. C'est-à-dire que tu poses la question et elle vous dit quelque chose, mais vous ne trouvez pas les mots, vous ne savez pas si elle a dit que c'est pareil ou c'est différent, ou c'est pareil, sauf pour. C'est comme si, par exemple, je fais un exemple général, après je fais ton exemple, Françoise. Mettons, tu dis, quelle est la relation entre ton travail cette année et l'année dernière? La personne vous sort, l'année dernière, j'étais dans la gestion et cette année, je suis dans la vente.
Voilà.
Alors, nous ne savons pas. Non, c'est pas ça. C'est pas que ce n'est pas pareil. Nous n'avons pas le moindre idée que pour la personne, est-ce que c'est deux choses égales ou deux choses différentes. Donc, c'est pas comme si la personne a dit cette année pomme, l'année dernière orange. Nous ne savons pas si tous les deux sont des fruits. Ou sont des choses différentes. Donc la réponse, c'est que tu prends la personne, tu dis, ah bon, cette année, tu es dans la vente, alors que l'année dernière, tu étais dans la gestion. Quelle est la relation? Et là, la personne vous dit, c'est à peu près pareil, tu travailles toujours avec des gens.
Ah.
Ou elle va dire, c'est complètement différent.
D'accord.
Ou elle va dire, c'est pareil, mais tu passes plus de temps avec des gens. Tu comprends? Donc, c'est pas ton modèle du monde. C'est pas à toi d'interpréter. Donc, et tu mets la tête sur le côté avec un regard de curiosité. Donc, je fais un exemple avec toi, Françoise. Donc, la première question, c'était quelle est la relation d'entre autres travail de cette année? Et l'année dernière, tu avais dit...
Il y a une évolution.
Non, ça, c'était au début.
Oui.
Non, j'aimerais que tu reprends cette partie-là.
Il y avait un projet en cours. Et qui s'est réalisé.
Cette année. Alors, pas la moindre idée si c'est pareil ou différent ou légèrement pareil. Et donc, je dis, il y avait un projet en cours et cette année, il s'est réalisé. Alors, quelle est la relation? Est-ce que Françoise a une réponse à la question?
Avec son attitude, elle ne sait pas.
Ok. Tu as une réponse à la question?
Non, peut-être pas.
Alors, l'année dernière, je reprends, l'année dernière, il y avait un projet en cours qui s'est réalisé cette année, c'est ça?
Mm-hmm.
Alors, quelle est la relation entre l'année dernière et cette année? Alors là, on voit une personne qui cherche une réponse, n'est-ce pas? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Alors, s'il n'y a pas de relation, ça veut dire quoi? C'est différent. C'est-à-dire, elle essaie de trouver un sens à cette question. On voit que tu fais un grand effort pour trouver. Et vous avez déjà eu l'expérience où tu essaies de trouver le rapport entre celle-là et là, tu cherches, et bon, là, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Et donc, pour Françoise, c'est différent. Ok, excusez-moi, je vous demande pardon, mais je vais aller à la réalité juste. Quelques secondes, d'accord? Ok. Excusez-moi, je sais qu'on ne veut pas passer beaucoup de temps dans la réalité, alors j'y suis. Eh bien, vous savez, entre n'importe quelles deux choses dans l'univers, il y a des choses qui sont pareilles, des choses qui sont similaires et des choses qui sont différentes. Mais tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as remarqué. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et ça change par contexte. Oui, je vous avais donné l'exemple de la crème glacée. Moi, j'ai un schéma de pareil pour la crème glacée. Ma mère, elle a un schéma de différence pour les vacances. Si elle a déjà été dans un endroit, ça veut dire qu'elle a fait cet endroit-là. Il faut aller quelque part d'autre après. Mais elle a vécu 28 ans dans sa maison. Vous voyez, donc c'est par contexte. C'est pas une question de votre nature ou de votre personnalité. Et dans les contextes commerciaux, c'est très, très, très important. Par exemple, prenons le contexte de la bière. Au Canada, par exemple, il y a deux types de bières. Il y a la bière qui vient de les grandes brasseries nationales. Et ensuite, il y a les micro-brasseries qui sont très régionales, très petites. Alors, à votre avis, les gens qui vont boire de la bière venant des grandes brasseries, ont quel schéma pour la bière, par exemple?
Pareil.
pareil. Et d'ailleurs, j'en ai vu une affiche, un panneau publicitaire un jour d'une des grandes marques de bière au Canada, c'est Labatt Bleu. Et c'était très bien fait. Parce que c'est comme s'ils ont compris, au moins au niveau inconscient, la nature de leur marché. Alors le poster, il y avait une bouteille de Labatt Bleu. On voyait la bouteille, était belle photo de la bouteille. Et en haut, c'était marqué, est-ce que vous... Alors je le dis en français canadien, vous êtes tanné de voir la vieille... Je le dis en anglais, ensuite je trouve la traduction parce que là, c'est plus élégant en anglais. Are you tired of the same old thing? Est-ce que vous êtes fatigué de la vieille chose, de même vieille chose pareille? Point d'interrogation. Et en bas, c'était marqué, neither are we. Nous autres non plus. C'est futé leur truc, hein? Vous voyez, donc ça a collé à le marché. Mais si, par exemple, vous préférez choisir la bière, parce que nous, on vient d'une culture de buveurs de bière, et si vous choisissez, par contre, la bière venant des micro-brasseries, c'est parce que vous cherchez quoi? Un goût différent à chaque fois. Donc, il n'y a aucune loyauté dans les clients. Alors, pour convaincre les clients de reprendre ta bière, à chaque fois, tu dois prouver que c'est unique, que c'est différent. OK? On voit ça avec des automobiles aussi. Par exemple, il y a la minivan de Chrysler. Ça se vend parce que c'est le minivan original. Alors, c'est quel type de langage? C'est pareil, ils vendent aussi par le nombre de personnes ayant déjà acheté un minivan. Il y a d'autres types de voitures qui s'achètent ou qui se vendent par le fait que c'est unique. Unique, c'est quoi? Différence. Donc ça fait appel aux gens qui veulent avoir une voiture unique, pas comme les autres. Que s'ils en voient trop, c'est pas bon signe. Vous voyez, donc on peut faire ça avec n'importe quel produit ou un service. Mais là, il y a une nuance. Est-ce que ça vous intéresse un peu le marketing? Parce que vous devez vendre vos affaires, même si c'est pas évident que vous faites ça, parce que tout le monde est vendeur à un niveau ou à un autre. Si, mettons, vous offrez des services de formation, mettons, ou de psychothérapie ou de conseils, etc., ben, il y a un paquet de gens qui font ça. Pour d'abord attirer l'attention, il faut que vous soyez différent. Uniquement pour attirer l'attention. Parce que sinon, on ne va pas vous voir. C'est une question de perception. Après ça, il faut synchroniser au schéma de votre marché, des gens avec qui, je pense, peuvent acheter le service. Quand il s'agit d'être dirigeant dans une organisation, par exemple, un des dilemmes, souvent, c'est comment faire passer le changement dans un environnement qui n'aime pas le changement. Mais ce n'est pas en disant, mais écoute, on va faire différemment. Ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Plutôt, on s'assortit au langage de la culture de l'endroit. Alors, si vous travaillez dans un endroit où on préfère que les choses restent pareilles, mais on utilise un langage pareil. Dis donc, il va falloir qu'on fasse comme avant, mais maintenant encore mieux. Donc, on introduit un peu d'exception. On va garder les mêmes valeurs, on va traiter le monde avec le même respect qu'on a toujours fait. Mais maintenant... on va améliorer nos résultats ou la façon de résoudre des problèmes. Vous voyez, c'est très puissant. Un exemple que j'ai beaucoup cité, c'était l'exemple, il y a une trentaine d'années dans les entreprises, on avait ce qu'on appelait le pool. C'était des dactylos qui étaient toutes dans une même pièce, en ligne, en train de taper à la machine à écrire manuel. Et c'était pas uniquement les femmes qui payaient les études de médecine de leur mari. Il y en a quelques-unes aussi qui ont fait ça pendant 10-15 ans. Okay? Alors, quels sont les schémas qui vous motivent si vous tapez à la machine pendant 10-15 ans? Quels sont les deux schémas de motivation?
Plutôt pareil.
Plutôt pareil et quoi? Si vous êtes en train de taper à la machine toute la journée, c'est quel autre schéma parmi les schémas qu'on a déjà vus? Non? C'est procédure. Vous voyez? Bon, alors ces personnes-là tapent à la machine, c'est manuel, et tôt ou tard, on introduit la machine électrique. Donc, ça va un peu plus vite. Et après ça, on a inventé les machines de traitement de texte. Ça vous dit quelque chose? Et les vautours de changement sont descendus sur les poules en disant, nous avons acheté des nouvelles machines et ça va révolutionner votre travail. Alors, si on réfléchit maintenant... Si tu as passé 10-15 ans à taper à la machine, est-ce que tu es motivé par la révolution? Je crois pas, non. Ça a été un fiasco, mais complet. Il y a des milliers de femmes qui ont démissionné carrément en disant « je suis trop vieille pour ça, je pourrais jamais apprendre ça ». Mais ce n'est pas le changement qui était démotivant, c'était le langage du changement. C'est jamais la chose elle-même, c'est la manière qu'on la présente. On sait très bien, si vous avez des enfants, ce n'est pas le goût du repas qui compte pour eux, c'est toute l'ambiance et la manière que ça soit présenté. Alors, regardons un peu le langage d'influence. Si vous travaillez avec quelqu'un qui a un schéma de pareil, mais vous lui dites en quoi ceci, qu'est-ce qu'il a en commun avec cela? C'est à peu près la même chose. Moi, pendant des années, il y a une de mes fils qui a eu un problème à chaque fois qu'il rentrait dans une nouvelle classe en début d'année scolaire. Parce que la maîtresse était une nouvelle personne. Alors, quand j'ai compris son truc, on commençait au mois d'août. Chez nous, on recommence à l'école au mois de septembre. Et là, j'ai commencé mon affaire au mois d'août. Je disais, bientôt, il va falloir qu'on t'achète tes habits pour l'école et tes fournitures pour l'école parce que tu vas rentrer bientôt à l'école. Rentrer, c'est quel genre de langage? Rentrer, c'est faire autrefois. C'est quel... Pareil, tu rentres et tu vas avoir étudié le français, les mathématiques, l'anglais, comme d'habitude. Mais je sais qu'il va te perturber par la maîtresse qui est nouveau, donc il faut quand même que je crée une place pour ça. Et j'ai dit, et tu vas avoir des professeurs nouveaux qui vont te sembler difficiles et incompréhensibles au début. Donc, j'induis qu'il y a un temps limité. Mais petit à petit, tu vas te rendre compte que c'est toujours la même chose. Il y a toujours des maths, il y a toujours la récréation, c'est toujours le français. Bien que le prof semble un peu différent qu'avant et qu'elle n'agit pas de la même manière, de toute façon, tu vas voir que c'est à peu près pareil. Donc, tu vois, on fait un sandwich. Mais on commence avec le pareil. Si quelqu'un a besoin de rassurer, le meilleur langage à tenir, c'est le langage de pareil. Si, alors ça c'était un pour rassurer quelqu'un, on fait un langage de pareil. C'est pareil, tu l'as déjà vu. Ça on a vu avant. Hein. C'est comme on a fait d'habitude. C'est à peu près ça, tu le connais déjà. On a toujours fait ça.
Si l'expérience est négative, c'est-à-dire que si il a vécu quelque chose, enfin l'enfant a vécu quelque chose de très difficile l'année d'avant.
À ce moment-là, tu ne veux pas. Oui, mais tu veux pas que ça. Tu veux choisir la chose à laquelle c'est pareil. Donc, s'il n'a pas aimé son professeur l'année dernière, tu ne vas pas lui dire, mais c'est pareil que l'année dernière. C'est pas aidant. Donc, tu choisis autre chose.
C'est pareil que l'année d'avant.
C'est pareil quand tu as vécu dans ta première année, dans la deuxième année. Bon, c'est vrai que tu n'as pas aimé ta professeure dans la troisième année, mais là, tu es dans la quatrième année. C'est à peu près pareil que les deux premières années. Donc, tu reconnais quand même le problème. À mon avis, si tu renies en excusant un problème, elle va revenir de toute façon. Il faut la reconnaître, mais la cerner dans un délai de temps limité. D'accord? Ça a plus de sens. Quelqu'un qui apparaît avec exception, mais bien sûr, c'est évident. C'est plus ceci, moins cela, c'est meilleur, il y a une progression. C'est pareil, mais c'est encore meilleur qu'avant. Etc. Donc, c'est les mots progressifs. Et je dirais que vous avez intérêt à introduire tout changement d'organisation avec beaucoup de pareils et un peu d'exceptions. Ça, c'est pour diminuer le niveau de résistance. Au lieu de dire, écoute, on va tout changer là. On ne se serait jamais comme avant. On va bâtir de nouveaux bâtiments, créer de nouvelles structures, to go where no one has gone before. Non, ce n'est pas la peine de faire ça. Dans les organisations, les structures qui sont plus ou moins fixes et les gens sont plus ou moins accommodés à ça. Et donc, c'est mieux de faire la chose. Quant aux élections, j'ai eu une amie il y a quelques années qui m'a dit « Je veux me présenter pour conseil municipal. Est-ce que tu veux m'aider ?» J'ai dit « Oui, d'accord, mais j'ai besoin d'un peu de recherche. » Alors, j'aimerais que tu demandes à ton équipe de poser cette question dans les centres d'achat et dans la porte-à-porte. Et là, si tu as rien qu'une question à poser, mais tu veux savoir le maximum de schémas, savez-vous quelle question que c'est ? Question de critères. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Parce qu'après, tu peux décoder tous ces autres schémas là-dedans. Et tu dois choisir le contexte exact. Donc, la question, ce n'est pas « qu'est-ce que tu veux dans un conseiller municipal ?» Parce que ce n'est pas ça qu'on voulait savoir. On voulait savoir au moment où elle prend la décision pour qui voter, qu'est-ce qui est important. À ce moment-là, c'est très étroit. Donc la question qu'on a demandé qu'il pose, c'est qu'est-ce qui est important pour vous au moment où vous décidez pour qui voter pour conseiller municipal. Voyez-vous? Parce que c'est ça le moment qu'on voulait mesurer. Alors, je lui ai demandé de faire ça et c'était il y a quelques années. Vous savez quand on a eu des télécopieurs qui ne coupaient pas le papier? Vous vous souvenez de ces jours-là? Oui. J'avais une vieille télé... Ben, dans le temps, c'était pas vieux. Mais il y avait mon fax, mon télécopieur. Et là, j'arrive à mon bureau et il y a une langue de papier qui s'empile parce qu'elle avait repris. Et là, je lui ai demandé que les membres de son équipe écrivent de mot à mot ce que les gens disaient. Je voulais pas que les gens interprètent. Alors, il y a une pile de papier, un demi-mètre d'auteur. Alors, je commence à dépouiller. Et ce que les gens disaient, c'était je veux quelqu'un qui a une profonde connaissance de notre communauté. Je veux quelqu'un qui s'est manifesté depuis longue date comme en étant active dans notre communauté. Je veux quelqu'un qui ne viendra pas créer des grosses vagues de changement. Alors, c'est quoi ça? C'est pareil. Et ceci dans un contexte dans notre province où un nouveau gouvernement a décidé de tout changer au niveau municipal. Donc, on a eu des énormes fusions et des gros changements partout. Et c'était clair que ce que les gens voulaient, c'était « Bon, ça suffit pour le changement, on veut que ça soit pareil ». Donc, ils avaient besoin presque d'être rassurés. Donc, j'ai dit, pour ta campagne, il faut que tu sois capable de prouver que tu connais la municipalité à fond, que tu as été active sur les différents comités depuis au moins 20 ans, etc. Alors, elle a mené sa campagne. Moi, j'ai pas été impliquée plus que ça. Elle a perdu. Parce que tous les gens qui étaient en place ont été réélus. Et voilà. C'était le schéma de pareil. Donc, elle a essayé de montrer en quoi elle était pareille, mais elle n'était pas suffisamment pareille pour ce dont il avait besoin. Et ça, c'est lorsqu'il s'agit des élections, il faut à chaque fois faire les recherches. Parce qu'il y a des époques différentes, il y a des valeurs différentes, etc. Donc, ça, c'était un exemple de ça. Mais revenons à notre exemple de la poule. Si votre groupe a un schéma de pareil plus procédure, quel est le langage qu'on devrait utiliser pour introduire les changements? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple?
Ben, votre métier ne va pas changer, tu tapes toujours sur un clavier.
Tu tapes toujours sur le même clavier, comme toujours.
La même mission.
La même mission. Ok, avec...
Mais que le travail va être facilité.
C'est le même métier.
Mais que, oui, là on étudie un peu d'évolution.
Le travail va être facilité grâce au correcteur et orthographe automatique.
Exact.
Il faudra juste un peu plus d'attention au départ.
Ça c'est une critique. J'y vais pour la procédure. Oui, exactement. C'est-à-dire, là, il faut utiliser le langage procédure aussi. Donc, le clavier, c'est le même comme d'habitude. Vous allez faire le même travail que vous avez toujours fait. En plus, il y a des clés supplémentaires. Donc, on introduit un peu supplémentaires, c'est pareil avec exception, qui vous permet d'aller plus vite, pareil avec exception, corriger plus facilement les erreurs. Trouvez tous les dossiers et nous allons vous apprendre la procédure pour vous en servir. Voilà. Donc pour assurer vraiment c'est pareil plus procédure. Nous allons vous apprendre la bonne procédure pour vous en servir. Au lieu de dire, et vous voyez les gens qui écrivent les manuels d'instruction technique, est-ce qu'ils suivent des procédures? Est-ce qu'ils nous démontrent des procédures? Oui. Mais vous démontre tellement de procédures que ça devient une option. Et c'est un peu frustrant. Voulez-vous savoir comment faire fonctionner ça? Oh, bon, oui, il y a 5 moyens différents. Tu n'as pas besoin de 5 moyens différents. Tu me donnes la bonne et on en finit, OK? Donc, langage de persuasion différence, c'est nouveau, c'est unique, complètement différent. C'est jamais entendu auparavant. Alors, le problème, c'est que ça passe pas le test du macho. Donc, attention à ça. Alors, même si la personne a besoin de langage nouveau, si on la froisse parce qu'on n'a pas réussi le test du macho, non, attention. Mais quand même, ce qu'on fait ici, c'est quand même quelque part unique, n'est-ce pas? Oui. Au fond. C'est un peu différent de ce que vous avez fait avant. N'est-ce pas?
Oui.
Je suis d'accord. Et ça donne un peu... C'est pour ça que c'est un peu attirant, parce que c'est pas comme les autres choses qu'on a fait auparavant.
Oui, c'est un bon argument. Oui, pour les gens différents.
Qui les gens qui, pour un moment donné, ont besoin de peu de différence.
Ce sont des schémas qui sont importants à savoir lors d'une embauche, par exemple.
Oui, parce que si tu as un projet qui doit durer 5 ans et que tu recrutes quelqu'un qui a les pieds qui grattent au bout d'un an et demi, il ne va pas être là pour terminer le projet. C'est très important. Et pour votre choix de carrière aussi, c'est très important. Pour vous autoguider, vous avez besoin de beaucoup de changements. Vous pouvez rester dans le même job pourvu que vous ayez des tâches différentes. Et donc, il y a suffisamment de différences à l'intérieur de votre travail. Alors moi, par exemple, je fais le même métier depuis... J'ai compté l'autre jour, c'est un peu épeurant. Je fais le même métier depuis 25 ans. Mais j'ai des groupes différents à tous les deux minutes. Et en plus, je ne change pas tous les deux minutes ce que je fais, parce que je tiens à développer une profondeur de connaissances. Si moi je change, ah oui, ça m'intéresse, je vais donner un atelier sur ça, mais pour moi, c'est pas crédible à mesure où j'offre à mes clients un certain niveau d'expertise. Et pour ça, ça m'oblige à être OK avec le fait de rester dans les mêmes domaines et d'approfondir. Approfondir, c'est quel schéma?
Pareil avec exception.
Alors, j'ai mon besoin de changer. Je voyage, je vois des groupes dans différentes situations avec des défis différents. Ça me nourrit ma besoin de différence. Mais bon, j'ai une expertise qui n'est pas large, mais qui est profonde. Je sais maintenant, après tant d'années de faire tout et n'importe quoi, parce que ça m'attirait, parce que c'était différent, que maintenant j'ai décidé de choisir un domaine d'expertise. Que j'ai pu définir pour moi-même, parce que je suis un peu interne là-dedans aussi. Et j'ai une procédure que j'aime suivre. D'accord. Et y a-t-il des questions sur ou des commentaires sur pareil avec exception et différence? Donc c'est très contextuel. Très contextuel.
Et c'est très contextuel.
Hein, oui.
Ça.
Oui, oui.
Ça peut être pour le travail là, comme tu dis, la maison. Ça peut être avec sa vie de couple.
Ah oui, la vie de couple, ça ne vous fait pas poser de questions? Ça? Alors, allô, y a-t-il des questions là-dessus? J'ai une amie qui a un schéma d'options et de différences dans son travail. Et dans sa vie en couple, pareil. Alors, si tu as options et différences dans le même contexte, ça donne quoi? Mais tu es compulsif sur le changement. Ok, tu finis jamais rien et tu es compulsif dans le changement. Si tu as ça dans le même contexte, vraiment 13 options, 13 différences. Mais elle est mariée depuis près de 30 ans.
Il y a des options différentes.
Et son mari, dans son travail et dans la relation, apparaît avec exception et plutôt procédure. Pas extrêmement procédure, mais plutôt procédure. Alors, comment est-ce possible qu'ils soient mariés? Ils sont contents d'ailleurs. Ils sont heureux ensemble. Parce que on connaît tous plein de gens qui sont misérables. Bien sûr, c'est pas ça. Ils sont heureux ensemble.
Union libre.
Non, même pas. C'est la créativité qui sort. Alors, comment ça se peut? Si je monte à la réalité encore une fois, s'il vous plaît. Alors, là, je suis dans la réalité. Je m'excuse, pardonnez-moi. Mais on s'en fout de ce qui se passe dans la réalité. Parce qu'elle a besoin de sentir que c'est tout le temps différent. Et lui, il a besoin de sentir que c'est de mieux en mieux. Donc on s'en fout de ce qui se passe vraiment. Et l'autre chose qu'elle doit faire, c'est quand elle change les meubles de place, il faudrait qu'elle lui dise, parce que sinon il va se faire mal aux genoux lorsqu'il tape dans les tables qui ont changé de place. Parce qu'elle change tout le temps de place de tout. Voyez? Donc la réalité, c'est pas nécessairement ce qui compte. Mais vous savez, les statistiques aux États-Unis par rapport à des divorces, c'est intéressant parce que ça colle à notre courbe. Il y a des hausses de divorces après un an, après 7 ans et après 21 ans. Ça colle avec la courbe de facture de décision. 1 an, 7 ans, 21 ans. Alors, en France, je ne sais pas. C'est 10 ans?
7 ans.
Et 1 an aussi?
On dit 3 ans.
Alors maintenant, vous avez besoin des vraies informations et non pas des opinions, ok? Et si on prenait la pause? Alors, on a fait un certain nombre de schémas de motivation. Je vous rappelle que qu'est-ce qui doit être là? Les schémas de motivation, c'est qu'est-ce qui doit être là pour qu'une personne se sente motivée, ou dans le cas contraire, lorsqu'elle est froissée, elle va se faire démotiver. Par exemple, si on a quelqu'un qui au travail a besoin d'un feedback externe, si on le met dans un endroit où il n'y a aucun feedback et aucun résultat concret de son travail, elle va sentir, par exemple, comme si on lui a mis dans un environnement de déprivation sensorielle. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous faites quelque chose, mais aucune manière de savoir si ça a fait une différence, s'il y a eu un résultat, etc. Donc c'est très nocif pour la personne. Ça m'arrive parfois de rentrer dans une entreprise et j'entends une phrase et je sais qu'il y a deux choses qui se passent. Ça m'arrive, je suis certaine que ça n'arrive jamais chez vous, dans vos entreprises, mais je débarque quelque part, on me dit « Shelley, il n'y a personne qui apprécie ce qu'on fait ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'abord, les employés qui ressentent ceci ont besoin d'un feedback externe venant du management. Ça veut dire qu'ils sont externes vis-à-vis le management. Et le management est probablement interne vis-à-vis des employés. Parce que quand tu es en interne, tu ne penses pas donner un feedback. Pourquoi tu n'en as pas besoin de toi-même? Donc, ça ne vient jamais à l'esprit d'en donner aux autres. J'ai fait la même découverte en tant que maman. C'est que je me suis rendu compte que je ne donnais pas suffisamment de feedback à mes fils alors qu'ils apprenaient des choses. Parce que c'était évident, tu réussis, tu ne réussis pas, tu fais ton truc, tu ne le fais pas. Ce n'est pas évident, non? C'est évident. Mais ce n'est pas évident si tu es en externe. Tu as besoin d'un résultat concret ou un feedback. Un feedback, ce n'est pas nécessairement un feedback verbal. Ça peut être un résultat. Moi, je me crée des feedbacks automatiques quand j'en ai besoin. Une liste de choses à faire que je peux cocher lorsque c'est fini est un feedback externe. Combien d'entre vous ont fait pour le travail? Vous faites une liste et que ça fait bien lorsque les choses importantes sont cochées. Pas seulement les petites choses qui vaut rien, mais les grandes choses que vous avez pu faire ça et là. Tu vois ça et tu dis, ah, j'ai eu une belle journée, j'ai accompli des choses. Parce que c'est marqué là, c'est coché, c'est fini.
Ce serait pas une procédure?
C'est une procédure aussi, mais c'est une procédure de type externe. Ça me montre que j'ai terminé un certain nombre de choses. Et c'est très facile de juger les autres parce qu'ils sont différents, qu'on devrait avoir quand même un schéma interne. On est quand même sur la planète pour se découvrir, se décider pour soi-même. Mais si je trouve que c'est plus motivant quand j'ai un résultat, que c'est les autres qui me disent « Shelley, tu m'as aidé dans ma vie », il n'y a rien de mal avec ça. Je n'ai pas moi à juger si c'est bon ou mauvais. Ce que je peux faire, c'est je peux prendre une activité ou une tâche, ou quelque chose, et dire, ce serait mieux d'avoir interne, externe, procédure, option pour réussir cette activité-là. Parce que maintenant, vous avez plus de choix, vous connaissez les deux côtés, les plusieurs côtés de chacun des choses, vous avez maintenant la possibilité de décider, tiens, je vais apprendre quelque chose de nouveau, donc ce serait bien que je mette en externe et que je prends sans juger. Une des choses que Roger Bailey, qui est le développeur du Profil Lab, il a dit que si vous êtes un psychothérapeute, par exemple, ou coach, et votre client reste en interne à votre égard, les ancrages ne marchent pas. Pensez à ça. Si la personne est en train d'évaluer tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ça ne rentre pas. Parce qu'elle juge. Donc, vous avez intérêt à créer une certaine crédibilité pour que vos interventions marchent. Donc, on peut commencer à voir toutes les différents types d'activités et se poser la question, il vaut mieux faire ça de cette manière-là pour réussir à ce qu'on veut faire. Cadre dirigeant, si je veux créer des changements dans mon entreprise, j'ai intérêt à savoir quelle est la culture de l'entreprise. Est-ce que c'est une culture à option? Est-ce que c'est une culture plutôt procédure? Est-ce que c'est plutôt pareil? Est-ce que c'est interne-externe? Et interne et externe à propos de qui? Parce que ça peut changer aussi. Il y a plein, c'est toute une grille d'analyse qui vous aide à développer des stratégies. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça comme outil de résolution de problèmes en tant que consultant qui vient de l'extérieur. Commentaire? Eh bien, on a une dernière catégorie de schéma de motivation et c'est ce qu'on appelle niveau. Niveau fait référence au niveau d'activité. Et sur la page 8, donc vous allez remonter au début de votre manuel, page numéro 8, et c'est le niveau de motivation. est-ce que la personne elle est motivée pour prendre l'initiative ou est-ce qu'elle préfère plutôt attendre? J'aimerais vous donner un exemple concret pour commencer. J'avais pris la décision à un moment donné d'apprendre à faire de faire du jogging. Okay? J'ai pris un certain nombre de mois. Alors, je vais vous dire ma stratégie de motivation, vous allez me décodifier. J'ai eu une amie en France et elle s'était mise à faire du jogging. Elle fait du jogging pendant des kilomètres et des kilomètres, des 1h30, 2h. Et je me suis dit, si elle peut le faire, je pourrais le faire. C'est quel type de motivation? Très réactif et externe. C'est pas moi qui ai dit, Shirley, tu dois le faire, tu le fais, ça va te faire bien, blablabla, pour une critère ou une autre. J'ai dit, mais ça doit être possible. Mais alors, j'ai commencé à faire ça. Ça m'a pris 5 mois pour aller à, je peux pas courir jusqu'à 5 kilomètres. Bon, cette année, j'en ai pas fait, mais l'année dernière, j'en ai fait beaucoup. Et moi, j'habite dans une région où je suis près d'un bois avec un chemin. C'est très, très beau. Donc, ça me permet aussi de sortir. Et donc, mais il y a des samedis matins où j'ai 2 stratégies différentes. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a des matins où le samedi matin, je me réveille et je réfléchis au fait d'aller faire mon jogging. Quand tu réfléchis à quelque chose, est-ce que tu le fais?
Non,
tu réfléchis à la chose. C'est impossible de faire et de réfléchir en même temps. J'ai remarqué ça. Ça a pris des mois pour que je comprenne le... Alors, et qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à réfléchir sur le fait d'aller faire ton jogging? Si tu commences à réfléchir sur autre chose, n'est-ce pas?
Ouais.
Et tu réfléchis encore à d'autres choses.
Ouais.
Est-ce que tu as fait ton jogging entre-temps? Non, il y a une demi-heure de passé et voilà, tu n'as toujours pas fait ton jogging et maintenant c'est trop tard.
Ouais.
Je suis la seule dans ce cas-là ou
non.
Ça vous... Ok. Et j'ai compris que la seule manière de faire du jogging, c'est tu te réveilles, tu te lèves, tu prends les vêtements, tu prends la chienne et tu sors et tu te trouves en train de faire ton jogging.
Donc,
si tu t'arrêtes et tu commences à réfléchir, c'est foutu. Et c'est ça la différence entre le proactif et le réactif. C'est être en action, être en réflexion. Ok? Et c'est juste récemment que j'ai compris cette nuance-là. Quelqu'un qui a un schéma proactif pour être motivé, il a besoin d'initier, de rentrer dans l'action. Sinon, il n'est pas motivé. Une personne qui est dans un mode proactif a une croyance qui va avec ça, c'est que tu es responsable de ton monde. C'est toi qui décides. C'est pas tous les problèmes qui t'arrivent, c'est ce que tu en fais. Donc, d'une certaine façon, c'est toi qui contrôles ce qui se passe. La personne qui est en mode plutôt réactif préfère attendre, analyser, réfléchir. Et elle aussi a une croyance à ce moment-là. Elle va croire au destin. Elle va croire que c'est passé comme ça parce que c'est comme ça que ça aurait dû passer. Tout est pour le mieux, dans ce meilleur des mondes possibles. Si je t'ai rencontré aujourd'hui, c'est parce que c'était dans les étoiles que je te rencontre. C'était mon destin d'aujourd'hui. Et donc, regardant la distribution, c'est parce que c'est ça qui est intéressant. Oups, c'est pas là. C'est que entre 60 et 65% de la population dans le contexte du travail est au juste milieu. Ni trop proactif, ni trop réactif dans le contexte du travail. Et alors, alerte opinion. Je suis contente que c'est comme ça.
Ouais.
Parce que si on avait la majorité des gens qui agissent sans réfléchir, on aurait quoi? Vous aurez ma vie. Mais bon, ok. Et de l'autre côté, vous avez la majorité des gens qui réfléchissent mais qui n'agissent pas, vous aurez quoi? Voilà. Alors c'est une très bonne chose pour la planète qu'on réfléchit et qu'on agit. Le problème lorsqu'on fait le lab pour faire, c'est la majorité de la population au juste milieu, donc c'est un schéma invisible la plupart du temps. Mais quand tu es en face de quelqu'un de proactif, tu te rends compte,
ouais.
N'est-ce pas?
Oui.
Tu te rends compte qu'il y a vraiment ce qu'on appelle en anglais un taureau dans le magasin de porcelaine. Voilà. Vous dites ça en français aussi?
Un éléphant.
Nous autres, c'est un taureau. Bon, vous avez des... Mais c'est pareil. Alors que si vous vous rendez compte aussi que lorsqu'il y a quelqu'un qui tend vers le proactif dans un contexte donné, le réactif dans un contexte donné, Parce que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui l'a fait bouger, en train de réfléchir, d'analyser, de contempler et d'attendre que le moment soit mûr. Donc, c'est plus visible lorsque c'est en extrême, vous voyez? Et la plupart du monde, c'est au milieu. Alors, si tu ne sais pas quel est le schéma de la personne, ça veut dire que... Il est au milieu. La personne est au milieu. Mais comment est-ce qu'on fait pour identifier les deux schémas? Ça, c'est sur la page 9. On va regarder ça. Il n'y a pas une question spécifique pour l'identifier, cette catégorie. Mais c'est caché dans toutes les phrases que la personne dit. À chaque fois qu'on ouvre la bouche, on révèle son schéma. Si c'est invisible, c'est parce que la personne est au milieu. Parce que quelqu'un qui tend vers la proactivité, elle a des phrases courtes, nom, verbe actif, objet tangible. Je frappe la table. C'est non que je considère quelles seraient les conséquences éventuelles si jamais j'allais réfléchir à la possibilité de frapper la table. Non, c'est pas ça. C'est que je frappe la table. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui a un schéma dans le proactif, il parle comme s'il est maître de son univers. C'est lui qui fait. OK? Quelqu'un qui est dans un contexte où il est plutôt réactif, il va utiliser les verbes à l'infinitif. L'infinitif, c'est réactif. Faire, c'est pas, elle n'est pas en train de faire. Elle est en train, c'est pas de l'action. L'infinitif, ce n'est pas de l'action.
Il faut faire.
Oui. Ah oui, c'est ça.
Ah, et je fais, je bouge.
Faire, c'est pas l'action. Je fais, c'est l'action. L'infinitif, le conditionnel, le subjonctif et des phrases avec des phrases longues sur avec les voix passives. On a dit. J'ai été couvert. Tout ça, c'est passif, c'est réactif, formulation réactive. Et ça veut dire que la personne est en réflexion et non pas en action. D'accord? J'aimerais vous donner un exemple. Il y a un nombre d'années, on m'a invité à aller voir le président d'une compagnie à fonds mutuels, qui vendait les fonds mutuels. Et c'était à 1 heure de chez moi. Donc je prends ma voiture, je vais 1 heure pour aller voir ce président. C'est un gars gentil, on parle pendant un certain temps, et oui, il cherche justement à avoir une formation avancée pour ses représentants de fonds mutuels, parce qu'ils ont déjà fait plein de formations de vente. Il voulait avoir quelque chose d'un peu différent, un peu avancé. Alors je me suis dit que en taillant bien clairement le profilable à leur type de marché, leur type de produit, ça pourrait aller. Alors on a passé 1 heure ensemble, et là, c'est le président, il est occupé, il doit faire autre chose, il y a d'autres réunions, et... Je m'en vais et on avait pris rendez-vous pour 3 semaines. Donc, conduit 1 heure pour me rentrer chez moi. 3 semaines plus tard, je reviens avec ma proposition. Alors, qu'est-ce qui fait des propositions ici? Il y en a des gens qui font? Je ne fais plus de propositions. Parce que le mot proposition, ça amène les gens à réfléchir, non pas à décider. Combien de fois on donne une proposition à quelqu'un qui veut d'urgence avoir la proposition? J'ai besoin de ça pour avant-hier, et que ça reste 6-7 semaines, 3 mois sur le bureau de quelqu'un. On appelle ses clients les « hurry up and wait ». Dépêche-toi et attendre, ok? Et donc maintenant, je fais des plans d'action, parce qu'il y a le mot « d'action » dedans. Et j'ai... ben oui, parce que j'aimerais qu'on décide. C'est tout ce que je veux, c'est une décision.
C'est pour un proactif, ça, Suzanne.
Non, c'est pour engager la partie du cerveau qui décide, justement. Et d'ailleurs, il y a, par exemple, j'ai fait une proposition pour une université, ils ne voulaient pas avoir le plan d'action. Alors j'ai dit, plan d'action proposé. J'ai quand même mis mon plan d'action dedans. Ok, bon. Alors, je reviens avec un plan d'action. Je vois ce président, on en parle, je lui montre ce que j'avais proposé, suggéré, et on en parle, on tourne autour, mais il décide pas. Bon, l'heure est finie, et il est occupé, c'est quand même le président, et je me tape 1 autre heure en voiture pour rentrer chez moi. Alors moi, je commence à être impatiente. Alors, je fonctionne en quel schéma là?
Proactif.
Le dernier réunion, je fais 1 heure de route. Et là, maintenant, je veux une décision. Là, on a parlé autour, on a fait les si, il est comme ça, et là, l'autre. On a fait les problèmes du monde, on a tout résolu les problèmes du monde. Et maintenant, j'ai envie d'avoir une décision. Alors, je pousse un peu. J'essaie de me retenir un peu, mais je pousse quand même un peu. Et là, il me dit, Mais tu vois, Charlie, je ne suis pas vraiment dans une position de décider pour te faire ceci maintenant. Parce que nous sommes au plein milieu d'une fusion. Et, alors je vérifie que j'ai le langage exact parce que j'ai le langage en anglais. Attendez. J'attends que la situation se clarifie. Alors, la voix dans ma tête explose. Et dans ma tête, parce que je suis quand même professionnelle, parce que ça arrive dans ma tête, ça ne va pas nécessairement dire que ça sort par la bouche. Et la voix explose dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Un message de Dieu? J'attends que la situation se clarifie. Allô, c'est qui le président? Il m'a pas dit, je suis en train de clarifier la situation, mais non, il attend que la situation se clarifie d'elle-même. Ça, c'était le dialogue que j'ai eu dans ma tête. Alors, attention, c'est pas parce que lui, c'est un gars mauvais et je suis une fille de bien, c'est parce que je me suis rendu qu'il y avait un écart énorme entre nos façons de faire. Et je me suis dit, je ne peux pas travailler avec lui. Alors, je peux être un bon PNListe et dire, c'est une leçon de flexibilité, mais je n'avais pas envie. Je me suis dit, à chaque fois que je vais venir le voir pour qu'il prenne une décision, il va attendre que quelque chose arrive. Bon, ce n'est pas toujours moi qui arrive. Oui, oui, vous avez le droit de prendre un certain nombre de décisions, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte, bon, je suis un peu à l'extrême dans mon travail. Il y a des aspects dans mon travail où je dois admettre, un peu hyper proactif. Il y en a d'autres où je suis très réactive. Quant au développement des produits, j'ai toujours attendu qu'on me dise, Charlie, j'ai envie que tu crées un certain nombre de ça. Alors ça, tiens, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Donc j'ai été assez réactif quant à la création des produits différents. Mais par rapport à ça, à rentrer dans l'action, je ne voulais pas attendre. Donc c'est ça vous parle un peu? Est-ce que vous revoyez quelques exemples de vos propres vies? Ben oui. Alors, je n'ai pas travaillé avec ce monsieur. Voilà. Mais vous prenez un autre contexte. Dans le contexte de trouver l'homme de ma vie, j'ai une copine qui m'a fait la réflexion que Shirley, tu ne trouveras pas l'homme de ta vie entre le sofa et le frigo. En voulant dire que tu peux être un peu plus proactif là-dedans au lieu d'attendre que l'univers te fournisse. Tu comprends? Alors, c'est très contextuel cette affaire-là. Heureusement, on a des amis, hein, parce que sinon on tournera en honte tout seul en demandant qu'est-ce qui se passe, j'en comprends rien là.
Tu l'as trouvé?
Non, pas encore. C'est une question personnelle, Véronique. Voyons.
Est-ce que tu as dépassé le sofa et le frigo?
Il n'est pas entre le sofa et le frigo. Je vous avertis, on me l'a dit, et c'est vrai d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé entre le sofa et le frigo. Et ni devant la télé non plus. Il n'y est pas. Il n'y est pas dans le frigo non plus. Allô, allô? Bon, vous voyez donc... C'est pas une question de personnalité, c'est une question de contexte. Vous avez sûrement des contextes dans lesquels vous attendez un miracle et d'autres contextes où vous rentrez dedans et peut-être il y a d'autres contextes où vous êtes juste au milieu, n'est-ce pas?
Ouais.
N'est-ce pas? Quand vous avez un client qui est coincé avec un problème, il est dans quel schéma?
Il est au milieu.
Il est réactif. Réactif. Il est coincé, il ne bouge pas, mais il réfléchit. Dieu sait qu'il réfléchit. N'est-ce pas? Et c'est pas nécessairement celui qui rentre dans les murs qui est plus efficace non plus. Hein. Donc, il n'y a pas de réponse miracle, mais tu peux aussi décoder les schémas qui fait qu'une personne a un problème.
Mais quelquefois, avec une personne qui fonctionne sur un mode réactif, eh bien, il est très content de rencontrer quelqu'un qui est proactif parce qu'enfin,
ça
veut dire que lui, il n'est pas capable d'aller là.
Et là, tu rentres dans le triangle de, comment il s'appelle déjà, le triangle de sauveur, persécuteur, victime, bien sûr. C'est le triangle de, Oui, oui. Cartman, c'est ça, le triangle de Cartman, c'est ça. C'est ça.
Il ne peut pas décider le fait que toi tu as.
Ou il n'agit pas.
Voilà.
Donc vous voyez, c'est quand même utile de prendre conscience de ça. Et si vous n'êtes pas certain si la personne est d'un côté ou de l'autre, c'est parce que probablement elle est au milieu. Parce qu'on se rend compte de la personne qui est impatiente. Ah, Voulez-vous savoir comment torturer quelqu'un qui est en proactif? Pour le rendre complètement fou, mais vite. Vous la mettez dans une situation qu'elle n'aime pas, mais vous enlevez toute possibilité de faire quoi que ce soit. Ça, vous avez déjà été dans des situations comme ça, hein? Si par exemple, j'ai dit quelque chose à quelqu'un et je l'ai blessé et j'ai voulu m'excuser, il ne prenait pas le téléphone. Donc, j'ai pas pu remettre les choses sur les rails. Alors, ça m'a frustré, j'ai été fou. Dans 5 minutes, deux jours de temps, parce que j'avais pas la possibilité d'agir. Et quand tu es proactif, tu as besoin de prendre des initiatives, tu as besoin d'agir quand tu es dans un mode proactif. Dans un mode réactif, tu peux réfléchir et guérir de cette manière-là, n'est-ce pas? Alors, on vous a dit. Alors, ça, c'est tout pour tous les. Ah oh oui, les. J'ai oublié, c'est le langage déclencheur d'influence pour proactif et réactif. C'est bien évident. Fonce, vas-y. N'attends pas. Ça, c'est éloigneur proactif. N'attends pas. Fais-le maintenant. Vous connaissez le slogan de Nike pour les chaussures de course? Just do it. C'est très fort, ça. Parce que le fait d'être au lit et de réfléchir à aller faire son jogging. Oui, restez et réfléchir si oui ou non vous allez le faire. Non, fais-le. Fais-le. Réactif. Là, on utilise un langage où vraiment on utilise les conditionnels, etc. Vous pourriez prendre en considération, c'est ce que vous avez entendu, attendu depuis longtemps, le moment est mûr pour... Et souvent on me dit, mais Charlie, comment tu fais en sorte qu'une personne qui réfléchit et qui n'agit pas, comment tu le fais rentrer en action? Et on utilise notre théorie de base de communication-influence, c'est que tu vas là où elle est pour l'emmener. Mais il faut que tu l'indiques à la personne que le moment pour réfléchir, c'est fini maintenant. Par exemple, maintenant que tu as pu réfléchir sur ce sujet, j'ai besoin du report sur mon bureau mardi matin. Non, c'est pas un ultimatum, c'est le dire qu'elle a fini de réfléchir. Tu as eu l'occasion vraiment de réfléchir à fond et maintenant on a besoin de le faire. Bon, voilà. Commencer avec réactif et l'emmener. Peut-être que j'ai été un peu abrupte, tu pourrais passer plus de temps dans le réactif avant de transformer en proactif. Donc on a eu le temps vraiment de réfléchir, d'analyser les options et de voir quelles seront éventuellement les conséquences. Et maintenant, on agit, on décide.
Moi j'ai eu le cas d'une assistante qui reportait toujours les dossiers qu'elle avait à faire en fait. C'était impossible pour elle de le faire au moment donné.
Ok.
Ça signifie quoi en fait par rapport à ce que...
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça signifie qu'elle reporte des dossiers. Parce que je ne sais pas ce qui a fait qu'elle est motivée de faire ceci et ne pas faire ça. J'ai pas suffisamment d'informations. Nous ne savons pas exactement. Je peux faire plein d'hypothèses comme ça, mais je n'ai pas suffisamment d'informations.
Donc si tu as quelqu'un... Juste pour rajouter que c'était terrible pour moi de voir une personne comme ça qui reporte toujours, qui attend.
Et t'as pas remarqué, tout le monde, que lorsqu'il y a quelqu'un qui fonctionne d'une manière opposée à vous, c'est presque offensé qu'elle fasse ça. Et j'ai l'impression que de nos jours, on a de moins en moins de patience pour les différences. On voit maintenant, dans la politique, il y a des polémiques entre les pays, des polémiques, des prises de position vraiment polarisées. Et j'ai l'impression qu'on vit une époque où c'est pas OK d'être différent. C'est-à-dire, on ressent un genre de rejet lorsqu'on n'est pas d'accord avec mon opinion. Et je l'ai ressenti chez moi. Et dans les communications courantes que je fais au travail et entre mes amis, je remarque la même chose. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est comme si on est tellement pressé, on fait tellement plus de choses maintenant que j'ai pas le temps pour tes opinions. Franchement, si t'es pas d'accord, bon, on fait autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un air d'impatience. Vraiment, on vit dans un contexte culturel où tout va vite, tout est stressé, pressé. Et l'idée de que c'est OK que quelqu'un d'autre fonctionne d'une manière différente. Et on est tous pareils avec ça, j'ai l'impression. Et donc, on a besoin de plus de gens dans la communication pour s'entraider ou pour nous aider justement à dire, mais c'est un fonctionnement différent, c'est tout. Voilà. Jean-Guillaume.
Par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait qu'on tolère moins la différence, j'aurais une autre lecture où il y a un degré d'insécurisation qui fait qu'on va réactiver un principe archaïque de survie qui est de fonctionner en clan. Ce qui est important, c'est d'être de la même tribu et là on est rassuré.
Et oui, et le concept de « eux » et « nous » alors qui rentre en jeu. Je viens de lire un article sur l'Internet. Bon, ça fait quelques jours que je n'ai pas écouté beaucoup de nouvelles à la télévision et je suis rentrée sur le site Internet de Radio-Canada. Et là, il y a un professeur qui a fait un rapport à l'Université de Colombie-Britannique où il a prouvé que le nombre de guerres et le nombre de morts dans les guerres sur la planète a diminué par 80% depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'a pas cette impression-là. Mais il a compté le nombre de guerres et le nombre de morts pendant ces guerres-là. 80%, ça a diminué par 80%. Mais ce n'est pas l'ère dans laquelle on vit. On vit dans un ère d'insécurité. Parce qu'on n'écoute que les nouvelles qui nous disent qu'il y a désastre ceci. En plus, avec les désastres naturels qu'on vient de voir, ben, on vit dans une planète où il y a un manque de sécurité personnelle.
Je crois que la guerre elle est permanente, ne serait-ce qu'au niveau commercial, on te dit que c'est international, donc ils font la guerre entre eux, pour avoir des prix, pour avoir des marchés, mais la guerre est tout le temps.
Et d'ailleurs, on se sert du métaphore de la guerre aussi, comme si c'est utile. Le guerrier, et d'ailleurs, le guerrier en tant que métaphore est quand même un concept qui n'est pas un concept que la plupart des femmes peuvent s'identifier. C'est vraiment un concept d'homme. Et le concept de jeu d'équipe, c'est un concept masculin. Et la plupart des femmes ne s'identifient pas là-dedans. Alors, il y a ça aussi qui rentre en jeu.
Sauf si elles sont sur le cerveau masculin.
Par exemple, mais bien sûr. Bah, les femmes, étant donné qu'ils ont, c'est pas elles qui ont fait le design de notre culture, elles s'adaptent. Les minorités s'adaptent. Et toute personne qui travaille avec les groupes savent très bien que tu fais pour la majorité de ton groupe. Pourquoi? Parce que les majorités s'adaptent. Ils doivent s'adapter en permanence. Les minorités s'adaptent, je veux dire. Les majorités établissent les règles du jeu et les minorités culturelles, de genre, etc. s'adaptent. C'est ça. Eh bien, j'aimerais passer maintenant à les exercices pratiques. Si vous regardez sur la page... Attendez. Sur la page 19, c'est bien ça. On a un résumé des profils, de la profil de motivation. Et j'aimerais vous donner aussi... une fiche de travail qui comprend et les caractéristiques de motivation et les caractéristiques de travail. Et ce que j'aimerais faire, c'est une démonstration sur comment poser les questions et écouter et cocher les réponses. Et je vais demander à Fabien si tu veux bien venir et on va faire une démonstration devant la salle de cours. Et d'abord, vous allez remarquer sur le fiche de travail, à la gauche, il y a des questions à poser et à la droite, il y a les différents schémas et sur la page 19, j'ai marqué quand même les critères pour savoir. Alors, Fabien, je te demande de t'asseoir et que tout le monde vous asseyez dans un endroit où vous pouvez bien nous voir, ok? Donc, si tout le monde peut voir Fabien et moi-même, est-ce que, je sais pas si tout le monde... Christine, est-ce que... Et Françoise, tu vois bien? Ok?
Ok,
alors... Alors, c'est Shirley qui fait le profil et c'est le 21 octobre, quelque chose comme ça.
22.
Hey, les journées passent. Une après l'autre. Voyons.
C'est...
Il y a certaines choses qui ne changent pas. Eh bien, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions à Fabien, juste pour vous montrer comment je fais. Et étant donné que la plupart de la population se trouve dans le contexte du travail, au milieu, au proactif et réactif, je fais comment tu appelles ça? C'est du cochement?
Oui, tu coches.
Je coche proactif et réactif. Donc j'ai deux flèches, d'accord? Pas des flèches, des... Comment tu appelles ça?
Des encoches, on va dire.
Des encoches. J'ai deux encoches. Un proactif, un réactif. Tout le monde le voit?
Oui.
Un coche proactif, un coche réactif. D'accord? Parce que si Fabien me montre qu'il est plus vers un côté ou plus vers l'autre côté, je vais cocher encore. Et vous savez, vous vous souvenez de notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je devine, c'est ça. Si j'essaie d'avoir raison et de déterminer que si je lis correctement, c'est pas comme ça qu'il faut mieux faire. Détendez-vous, vous allez poser des questions, vous allez cocher ce qui vous semble correct, et on va voir. La seule chose qu'il y a vraiment à écrire, c'est les critères. Ok. Donc, Fabien, tu peux nous dire brièvement quel type de travail tu fais, par exemple.
Ok, donc, on va répéter un petit peu. Pour rien, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, j'aide les gens qui portent un projet de création d'entreprise plutôt innovante, technologique.
Donc, si on l'appelle l'accompagnement dans la création d'entreprise.
Très bien.
Ok. Moi, je préfère utiliser les mots de la personne que juste tout simplement dire le travail. Donc, j'ai pris dans la création d'entreprise, c'est ça?
Voilà.
L'accompagnement dans la création de...
Voilà, mais
de...
C'est pour ça que je préfère dire l'accompagnement de porteur de projet dans la création d'entreprise.
OK. Donc, l'accompagnement...
C'est vraiment autour de la personne que ça tourne, quoi.
OK.
Donc, ça fait du coup un truc un peu long.
Donc, ton travail, c'est l'accompagnement de...
Porteur de projet.
De porteur de projet. OK. C'est bien. Ça vaut le coup de vraiment d'être d'avoir les mots justes, OK? Et bon... Et l'autre chose que j'aimerais vous dire, qu'à chaque fois que vous posez la question, d'abord, rappelez la personne du contexte. Parce que les gens sont très créateurs. On ne sait pas où ils sont partis. Je me souviens une fois d'avoir posé la question à quelqu'un qui voulait devenir être pilote d'avion. Alors, j'ai dit, pourquoi ce serait pour toi important d'être pilote d'avion? Il dit, mais tu as beaucoup de journées de congé. Ce n'est pas le même contexte. C'était le contexte des bénéfices d'être pilote d'avion. C'était pas le travail de pilote d'avion, voyez-vous. Donc c'est pour... On ne sait jamais à quoi pensent les gens. Alors, qu'est-ce qui est important dans ton travail? Oh, ça me donne du temps avec mes enfants. Hello! Ça, c'est pas le travail, ça, c'est une conséquence de ton travail. Donc, c'est pour ça que je rappelle avant de poser chaque question. J'attends que la personne y va dans ce contexte-là et après, je pose des questions. Comme ça. Je dis, parlant de ton travail d'accompagnement de porteur de projet, vous voyez, j'ai eu un donc je sais que tu es là. Qu'est-ce qui est important pour toi? Que veux-tu?
Dans l'accompagnement?
Oui, logique.
La relation humaine, déjà?
La relation humaine.
Ouais, qui est importante. La diversité des projets et puis la variété des tâches.
La diversité de projets, la variété de tâches, ok. Et si j'ai pas de place sur ma fiche, je tourne, hein, la variété de tâches.
Voilà.
Voilà, c'est tout?
Oui.
Ça, ok. C'est... Donc, juste pour vérifier que je l'ai, la relation humaine est importante, et la diversité de projets, et la variété de tâches.
Oui, puis la stimulation intellectuelle.
La stimulation intellectuelle.
Que ça passe phosphoré, que ce soit nouveau.
Ok, que ça soit nouveau. Bien. Fabien, pourquoi c'est important, tu sais, dans ton travail d'accompagnement de porteur de projet, pourquoi c'est important que tu aies une variété de tâches?
Pour continuer à apprendre.
Ok.
Et puis pour ne pas m'ennuyer.
Et pour ne pas t'ennuyer. Et pourquoi ça c'est important pour toi?
Pourquoi c'est important de continuer à apprendre? Parce que j'ai besoin de changements, je sais que j'ai besoin de nouvelles tâches, d'avoir... à partir du moment où je me répète trop, je deviens moins performant, je pense.
Ok.
Et que j'ai envie d'évoluer, donc voilà.
Ok. Et en tant que ton travail dans l'accompagnement du porteur de projet, comment sais-tu que tu as fait du bon travail?
Je sais que j'ai fait du bon travail en fonction d'objectifs qu'on a atteints. C'est-à-dire qu'on se fixe avec le porteur et puis les deux partenaires, on fixe un programme d'action avec des objectifs, un milestone, et puis on essaie de... Voilà, à un moment donné, il y a des résultats ou pas, quoi.
Ok. Voilà. Et en tant que ton travail dans l'accompagnement, j'ai du mal à prononcer ce mot-là, l'accompagnement de porteur de projet, pourquoi tu l'as choisi ce travail-là?
Pour me former. En fait, j'avais un projet à une époque de création d'entreprise qui n'a pas abouti, donc je me suis retrouvé sans projet. et avec toujours la volonté un jour de monter une société. Et donc j'ai trouvé que c'était pas mal d'apprendre en accompagnant les projets des autres en attendant d'avoir le sien.
Ok. Voilà.
Pour faire son réseau et son expérience.
D'accord. Et là, vous avez entendu une partie histoire, une partie critère, n'est-ce pas? C'est une salade mixte, mais je vais vous montrer comment faire avec, après. Ici. Et en tant que ton travail d'accompagnement de porteur de projet, quelle est la relation entre ce que tu fais cette année et l'année dernière?
Bien pénible cette question.
Oui, oui, je vois.
C'est la même mission, mm-hmm. C'est évident. La différence, c'est que je prends un peu plus de temps pour m'occuper peut-être d'un projet personnel.
D'accord.
Dans le cadre de ça.
Voilà. D'accord.
J'organise un peu mon temps différemment. Maintenant, je vois les mêmes personnes. J'accompagne des nouveaux projets quand même, puisque les gens ont changé. Les projets, il y a des sociétés qui sont sorties. Donc, ce sont des nouveaux projets, mais c'est la même méthodo, avec un peu plus d'expérience peut-être, avec.
Je continue à cocher.
Plus d'expérience.
Voilà, des expériences. Bien, on a terminé. Tu restes là pour l'instant, ça y est. Ça a pris quoi? C'était 5 minutes, 6 minutes? Ok. Là, je suis certaine que vous avez remarqué, il y a des schémas très faciles à réparer. Il y en a d'autres, je dis wow, c'est ça? Alors pour vous, quels étaient les plus difficiles à réparer pour l'instant? Interne, externe, parce qu'il y a cette histoire d'objectifs. On ne sait pas qui exactement a décidé que les objectifs étaient comblés ou pas, mais il y a une question d'objectif, il y a aussi une question de résultat. Donc, on ne sait pas. Donc, j'ai coché quelque chose parce que je devine. Je m'en fous si j'ai raison ou j'ai tort, parce que bientôt, je vais faire quoi? Donc, je suis décontractée. Ce n'est pas un problème. Alors, une autre qui était difficile pour vous.
Option procédure,
ça je pourrais vous dire, il a raconté une histoire et il avait des critères. Donc ça veut dire quoi? Il a les deux. Et là, lorsqu'on va tester, on va savoir quelle proportion tu fais option procédure. D'accord? Je vais vous montrer comment on teste. Quels étaient les plus faciles?
Les critères.
Les critères, oui, on écrit, hein, c'est tout. Et le... Tu l'as pris comme proactif? Ok. Et
l'orientation à les
faire, oui, aussi. Ok, d'entendre le...
Par contre, aussi les différences, pareil avec exception.
Ben oui. Et différence et pareil avec exception. Chaque phrase, Fabien a fait les deux. Oui, oui. Alors, j'étais en train de cocher. Alors, j'ai fait... Moi, je m'en fous du nombre de cochements que je fais. C'est que j'écoute et quand j'entends quelque chose, je coche. Et ça me donne un poids relatif. Donc, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil avec exception. 1, 2, 3, 4, 5, différence. Donc, il est plus ou moins au milieu. Pour la première partie de notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Bon, on va tester tout à l'heure, d'accord? Donc moi, je suis décontractée, je rappelle la personne quel est le contexte, je pose la question et je cause ce que j'entends. Et dans une deuxième étape, je vais vous montrer comment tester. Alors pour cet exercice, j'aimerais que vous choisissiez quelqu'un avec qui vous n'avez pas beaucoup travaillé. Et moi, j'ai pris à peu près 5 minutes pour le faire. Vous pouvez en avoir 10 à chacun. Donc 10 minutes, vous faites votre timing vous-même. 10 minutes chaque personne. Et je dirais, vous avez intérêt de faire ce que j'ai fait. C'est de cocher où vous avez deviné sont les scores. Et vous voyez, dans un contexte large comme le travail, là j'ai marqué il y a plusieurs points aller vers, plusieurs points s'éloigner. Vous cochez tout ce que vous croyez entendre. Vous voyez? J'ai fait des coches. Ok? C'est comme ça que j'aimerais que vous fassiez parce que ça va nous aider à corriger, à tester après. Donc j'ai coché les réponses que j'ai cru entendre. Sans faire une drame. Parce que vous savez, moi j'ai l'impression qu'on a été vraiment éduqués et que c'est nécessaire d'avoir raison du premier coup. Quand tu vas à l'école, par exemple, tu n'as pas deux temps pour faire tes examens. On ne te dit pas, mais écoute, c'est juste un essai, tu devines sur les examens. Il faut que tu marques la bonne réponse la première fois. Mais ce n'est pas l'école ici, c'est la vie. Et donc, tu as toujours une autre chance de corriger ce qui vient avant. Vous savez, en anglais, on a cette vieille expression que je trouve un peu problématique. C'est « tu n'as pas une deuxième chance pour faire une première impression ». Vous avez déjà entendu ça?
Ouais.
Mais voyons, vous avez toutes les chances du monde pour faire une deuxième impression, une troisième impression, une quatrième impression. C'est pas fini. C'est jamais fini. C'est toi qui décides quand c'est fini. Et donc, détendez-vous. Trouvez quelqu'un. Décidez quel est le contexte dans ces mots. Rappelle-lui du contexte. Posez question et cochez comme ça vous chante. Et vous faites l'autre partenaire aussi. Donc, vous avez 10 minutes par partenaire. Donc, regardez bien vos montres pour faire cet exercice-là. Merci bien. Et merci Fabien.